Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 janvier 2025. Il n'y a plus de short dans le marché, plus personne n'a peur de rien et ça n'est vraiment pas facile de faire baisser les marchés. Pourtant, individuellement, je vous jure qu'il y a quand même 2-3 belles claques, on va le voir dans quelques minutes, mais pour ceux qui sont férus de statistiques, pour l'instant, on retiendra quand même que 79% des sociétés qui ont publié leurs chiffres étaient meilleurs que les attentes du marché. Les chiffres économiques sont un beau bordel, il n'y a pas d'autre terme, ils donnent toutes les indications possibles et imaginables et leur contraire. Et puis, bien sûr, Madame Lagarde revient du futur. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, on va rester en terrain connu et on ne va pas commencer à parler d'autre chose que ce dont on parle déjà depuis le début de la semaine. Alors oui, c'est vrai, on parle un tout petit peu moins de DeepSeek et ce pourtant, même si les conséquences se font toujours sentir, mais pour le reste, on a droit à du Trump et du Trump à toutes les sauces. Il est omniprésent et omnipotent, il sait tout sur tout et annonce des nouveaux trucs à peu près toutes les 5 minutes, quelque chose comme ça. Pour l'instant, d'ailleurs, ça fonctionne encore relativement bien, puisque le marché boit ses paroles, comme si c'était de l'élixir de jouvence mélangé à de l'Ozempic, mais à force, ça pourrait quand même commencer à fatiguer tout le monde. Je dis ça, je dis rien, mais ça fait déjà 10 jours, on commence à en avoir un petit peu à la tête comme ça. La première chose qu'il faut retenir au sujet de la séance d'hier, c'est la digestion des chiffres qui ont été publiés mercredi soir. Oui, vous vous souvenez, Tesla, Meta, Microsoft. Alors Meta continuait de battre des records, mais mollement. Tesla réussissait quand même à grimper 3% alors que la plupart des analystes ne comprennent pas trop la réaction du marché compte tenu des chiffres qu'ils ont publiés et qu'ils le disent très fort. Tesla est donc officiellement devenue une société qui fait de l'intelligence artificielle et le reste de son business, eh ben, tout le monde s'en tamponne complètement. Les voitures sont devenues de la décoration et la totalité du marché se concentre sur ce qu'a dit Elon Musk hier. Ils sont tellement leaders dans l'IA qu'on n'aperçoit même plus le second, la concurrence, tellement ils sont loin derrière. Donc clairement, Tesla se traite sur des multiples d'une société d'intelligence artificielle et la voiture électrique, eh ben comme d'habitude, tout le monde s'en fout et comme les shorts ont été exterminés sur la planète, il n'y a plus aucun risque sur Tesla. Bon, en même temps, ça fait quand même bien longtemps que Tesla n'est plus vraiment valorisé comme un constructeur automobile, ça on le sait, parce que si on devait le comparer à un Volkswagen ou à un Stellantis, soit Stellantis et VW sont horriblement bon marché, soit Tesla, c'est le short du siècle. Bref, Tesla était en hausse de 3%, mais les têtes sont secouer quand même en signe d'incompréhension. Et puis d'ailleurs, à propos de signe d'incompréhension, on peut aussi parler de Microsoft. Là aussi, on s'est posé des questions. Comment une boîte qui sort des chiffres globalement aussi bons peut se faire démonter de 6% pour une sombre histoire de ralentissement de la croissance dans le secteur du cloud? Je sais bien que le marché a toujours raison, mais pour le coup, hier, on était quand même en droit de se demander si le marché n'était pas un peu complètement con, une fois n'est pas coutume. Tout ça pour dire que la séance d'hier aura été une séance haussière, un peu partout dans le monde, même s'il a fallu un peu plus de temps à nos amis américains pour réussir à terminer dans le vert. En Europe, on a eu droit aux chiffres du PIB, et globalement, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, eh bien c'est que pour le moment, l'Europe est tirée par les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal, l'Italie s'en sortent clairement nettement moins mal que les soi-disant gros pays de l'Union Européenne. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs un PIB négatif depuis hier, et on les entend beaucoup moins faire les malins depuis quelques jours. Mais bon, peu importe le PIB, pourvu qu'on ait l'ivresse de la BCE. Oui, 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 parce que hier, nous avons eu l'adorable Madame Lagarde qui nous a encore abaissé son principal taux directeur à 2,75. Depuis 3 mois, l'inflation accélère à nouveau, péniblement et pas partout, soit. Et pourtant, Christine Lagarde s'est montrée particulièrement confiante sur un retour de l'inflation à sa cible officielle de 2%. Alors, s'il y a un truc qui est d'ailleurs assez marquant, c'est la force de ses certitudes. On a l'impression qu'elle sait tout en avance et qu'elle revient pratiquement d'un voyage dans le futur. L'assurance de la patronne de la BCE tranche carrément avec les doutes que montre actuellement Jérôme Powell. Il faut dire qu'elle a quand même bien changé, la patronne de la BCE. C'est elle qui piquait les discours du patron de la Fed il y a encore 2 ans en arrière. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a baissé les taux pour compenser les PIB qui sont merdiques de certains pays européens et tenter d'éviter la récession par tous les moyens. Elle a aussi confirmé au passage qu'elle allait d'ailleurs continuer de baisser les taux encore et encore. C'est que le début, d'accord, comme disait Francis Cabrel, afin de sauver le soldat Allemagne et le caporal France. Une autre certitude qui a fait du bruit du côté de Madame Lagarde, c'est l'Europe qui n'aura jamais de crypto-monnaie, de réserve de crypto-monnaie, selon elle. Alors que le reste de la planète est en train de virer sa cutie, tout spécialement sous la houlette et sous la direction de l'agent orange de Washington, on espère donc qu'elle n'est pas en train de se gourer de trajectoire, parce que si par le pur des hasards, le Bitcoin va vraiment à 500 000 $, et puis que t'en as pas la queue d'une ou la queue d'un dans ton portefeuille, ça risque quand même de faire mauvais genre. En résumé, la BCE a baissé les taux, les PIB ont connu des jours meilleurs, surtout en France et en Germanie, et pourtant le DAX, devinez quoi ? Et oui, le DAX, il est au plus haut de tous les temps, nouveau record d'altitude, et pour la petite info, et pour la bonne bouche, et bah depuis le début de l'année, le DAX prend déjà 10%. Du côté de chez Trump, alors qu'il continue de coller la responsabilité de tous les problèmes sur le dos des transgenres, des woke et de ses prédécesseurs, oui, parce qu'hier, on a aussi appris que s'il y a eu un crash à Washington, c'est parce que Obama et Biden ont attribué des jobs à des gens qui n'avaient pas les compétences, selon le président américain. Pourtant là, tout de suite, on dirait plutôt que c'est le pilote d'hélico qui n'avait pas les compétences. Rien ne prouve qu'il s'identifiait à un homme, à une femme ou alors à un cheeseburger. Tout ça pour dire que Trump était de sortie hier et ce, comme tous les jours, le grand patron était en mode tarif douanier puisqu'il s'est encore une fois pris la tête avec le Canada et le Mexique en leur reprochant de ne pas avoir stoppé les exportations de fentanyl et de migrants illégaux. Et donc, en conséquence, dès ce samedi, les tarifs douaniers vont entrer en vigueur à coup de 25%. Et dans la foulée, puisqu'il y était, le président a également prévenu que si les BRICS tentaient quoi que ce soit pour briser l'hégémonie du dollar, ils s'en prendraient plein les dents avec des tarifs de 100%. Allez, pas dans la mi-mesure, on y va carrément. Et donc oui, ces nouvelles annonces ont un tout petit peu freiné l'enthousiasme des marchés, déjà que Nvidia peine à se remettre de l'effet DeepSeek et que le secteur des semi-conducteurs est toujours dans le coma. Ça n'était pas forcément la meilleure nouvelle qui pouvait nous tomber sur le coin de la figure hier. La journée a donc commencé dans le rouge et les chiffres du PIB US ont ralenti de 3,1% à 2,3% et en dessous des attentes qui étaient de 2,7% selon les stars économistes américaines. Et ça n'a pas vraiment aidé à réchauffer l'ambiance dans l'immédiat, mais heureusement, pour compenser un peu, il faudra noter que les jobless claims étaient un peu moins pourris que prévu, donc c'était pas mal. Par contre, quand on voit ces chiffres tomber un à un, je peux vous dire qu'il y a un job que je ne voudrais pour rien au monde, c'est celui de patron de la Fed. Non, parce que d'un côté, tu te fais démonter par le président qui te déteste, et puis de l'autre, t'as les chiffres économiques qui vont dans tous les sens et qui te rendent la tâche encore plus complexe pour choisir la direction à prendre au niveau des taux. Tout ça pour dire que hier, les marchés US ont pataugé dans le rouge toute la journée pour finalement réussir à se sortir de l'ornière à la toute dernière seconde et finir en hausse. Ce matin, vous connaissez l'histoire, c'est toujours l'année du serpent, la Chine est fermée, tout comme Hong Kong, le Japon a publié son CPI qui est à 2,5%, en ligne avec les attentes, le Nikkei est en forte hausse puisqu'on explose de 0,3%, c'est de la folie. Et pendant ce temps, le pétrole se comporte comme une boule de flipper dans un couloir très étroit qui attend de voir ce qu'il va ressortir des droits de douane de Trump, histoire de voir à quelle sauce il va être mangé. J'en profite pour rappeler juste au passage que si on veut ramener l'inflation à 2% aux USA en ne comptant que sur le baril, ça serait pas mal si le baril pouvait descendre en dessous des 20 $. Et encore, je dis 20, c'est pour être sympa, ce serait plutôt 15. À l'heure actuelle, le WTI est à 73,43. Il y a encore donc un paquet de boulot pour faire baisser le baril et ramener cette foutue inflation à 2% et forcer Monsieur Powell à baisser les taux. Et du côté du Meltage jaune, vous aurez bien compris qu'il a bien aimé les déclarations de Tonton Donald hier, surtout celles sur les droits de douane. Cette instabilité et cette incertitude, ainsi que ces, évidemment, risques d'inflation qui pointent à l'horizon comme un troupeau de marmottes qui aurait fini d'hiberner et qui sortirait du terrier pour aller emballer du chocolat dans le papier d'aluminium, ils ont fait démarrer le métal jaune à la hausse et par la même occasion au plus haut de tous les temps. Alors ce truc est jaune, très lourd, fond comme une motte de beurre dès que tu le rapproches un peu trop d'un chalumeau, il n'a absolument aucune compétence en intelligence artificielle, ne permet pas de perdre du poids comme le Zempic et pourtant ce matin ça vaut plus de 2849 $ l'once et les 3000 ne sont même plus en option. La question c'est de savoir quand est-ce qu'on va les toucher. Tout ceci mis à part, il y a une chose que l'on attendait super fort hier soir, c'est les publications trimestrielles d'Apple. Il faut dire qu'il y avait un soupçon de méfiance chez les investisseurs puisque depuis quelques temps, on savait que les ventes d'iPhone, c'était pas Byzance en Chine, et au vu des chiffres publiés hier soir, c'était évident que l'iPhone et la Chine, c'est plus vraiment une histoire d'amour. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça ne ralentit qu'en Chine, et que dans le reste du monde, nous sommes toujours suffisamment fans pour claquer 1500 balles tous les 18 mois, pour jouer à Candy Crush, ou publier des messages débiles sur Snapchat, en se filtrant tellement nos photos que personne ne nous reconnaîtra s'ils nous croisent dans la rue. Le géant californien a donc annoncé un résultat en hausse de plus de 7% sur le Q4, à 36,33 milliards. C'est légèrement mieux que le consensus qui était à 35,6. Le chiffre d'affaires est en hausse de près de 4% à 124,3 milliards. C'est pile poil dans les attentes. Et c'est d'ailleurs un nouveau record historique pour Apple, 124,3 milliards. C'est monstrueux. Les revenus de l'iPhone étaient en baisse de 1%, mais comme ça n'était que dû à la Chine, c'est pas grave. En revanche, du côté des Mac et des iPad, carton plein, mais c'est surtout la division des services d'Apple qui a fonctionné comme principal relais de croissance. On n'avait pas vu venir celle-là, avec des revenus records de 26,34 milliards, en hausse de près de 14% sur l'année 2024. Pour faire simple, c'était des chiffres qui n'étaient pas bons partout, mais là où ça pêchait, il y avait d'autres chiffres qui compensaient dans le bon sens. Donc l'un dans l'autre, le trimestre a été apprécié par les analystes, et le titre prenait 3% after close. Et puis ce matin, puisqu'un des problèmes d'Apple, c'est la concurrence avec les Chinois et Samsung, eh bien Samsung vient de publier des chiffres en demi-teinte qui laissent à penser que le monde du smartphone n'est facile pour personne. Samsung est en baisse de 2,5% à Séoul. Dans les autres histoires du jour, UPS a annoncé jeudi un bénéfice plus élevé que prévu pour le dernier trimestre de 2024, mais ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation pour 2025 se situent un petit peu plus bas que les estimations des analystes, sans compter qu'ils ont décidé de revoir leur partenariat et ils comptent réduire une partie de leur business avec Amazon de 50%, parce que les marges sont pas terribles et que du coup ils préfèrent se concentrer sur des clients plus rémunérateurs. Alors je vous lis tout de suite les intervenants, ils ont pas aimé du tout la partie de la phrase où ils disaient « réduire le business de 50% avec Amazon ». Et le titre s'est fait pulvériser de 14%. Par contre, pour ceux qui sont patients et qui croient que la stratégie d'UPS peut fonctionner sur le long terme, eh bien, le rendement du dividende, sachez-le quand même, il est de 6%. Dividende d'ailleurs qui n'a pas été remis en question et qui a même été confirmé par le management. 6% de dividend yield sur UPS, sachant qu'aujourd'hui, on fait tout par e-commerce. Ça peut faire du sens. Autrement, ServiceNow a plongé de 11% après avoir annoncé des revenus de 2,86 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. C'était inférieur aux attentes de Wall Street. Le bénéfice et le chiffre d'affaires de Lam Research ont augmenté par rapport à l'année précédente, ce qui faisait grimper l'action de 7,4%. Cigna a chuté de 6,7%. L'assureur santé a complètement raté ses estimations de bénéfices trimestriels et a publié des prévisions plutôt modestes dans un contexte de, bien évidemment, hausse des coûts médicaux. Je ne me souviens pas quand c'est que la dernière fois on a parlé de baisse des coûts médicaux. Whirlpool est passé dans les chiffres rouges, ils ont annoncé une perte hier et le titre a littéralement plongé de 16%. Comcast a également raté son trimestre et reculé de 11%. Et puis Caterpillar prévient que ses revenus seront légèrement inférieurs en 2025. La faute aux inquiétudes concernant la demande qui pèse sur les perspectives du marché de l'équipement lourd. Globalement, les chiffres étaient meilleurs que les attentes, mais les inquiétudes ont donc pesé plus lourd, comme l'équipement, facile celle-là, d'où la baisse de près de 5% hier. En revanche, il n'y avait pas que du mauvais, puisque Las Vegas Sands a bondi de 11% après que la société de casinos et de centres de villégiature ait annoncé des résultats trimestriels en demi-teinte, mais par contre, ils ont parlé de reprises dans la foulée, donc on a bien aimé la thématique. Et pour surfer sur la vague du bonheur, on retiendra encore Quintel a publié ses chiffres hier soir. On va pas qualifier ses chiffres d'extraordinaires, mais par contre, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les analystes ont l'air plutôt satisfaits des restructurations qui ont été mises en place par le nouveau management. Du coup, le titre prenait quand même 3,65% after close, tout ça avec des résultats quand même pas exceptionnels. Et pour terminer avec les chiffres, eh bien, on notera aussi que Visa et Mastercard se sont montrés très très heureux de leurs chiffres trimestriels, puisque les dépenses via carte de crédit ont continué de croître de manière assez spectaculaire. Les volumes sont bien sûr en haut, les Américains s'endettent toujours avec des taux d'usuriers, mais Visa et Mastercard sont plutôt contents. C'est vrai que quand on encaisse du 20-22% sur les cartes de crédit, c'est plutôt cool, sans compter tous les frais qu'on prend au passage. Allez, hier soir, Visa prenait 1% after close plus 2% sur la séance, et Mastercard ne faisait rien after close mais prenait 3% sur la séance, donc on est un partout balle au centre. Et côté chiffre du jour, c'est la séance de l'inflation aux USA, puisque vous le savez, je vous le dis depuis lundi, eh bien on aura les chiffres préférés de la Fed, le PCE, qui sortira à 14h30. On peut se dire qu'on va se poser des questions en fonction de ce qui se dit, mais on devrait pouvoir également compter sur Trump pour faire diversion et se fâcher avec quelqu'un d'ici ce soir. D'ailleurs, il n'a toujours pas stoppé la guerre en Ukraine, je le précise, il avait dit que ça prendrait 48 heures. Mis à part ça, il y aura aussi les ventes de détail en Allemagne, le CPI en France et le chômage en Allemagne. Voilà ce que l'on pouvait raconter pour ce dernier jour du mois de janvier, pour ce dernier jour de la semaine. Oui, vous le savez, ce soir, c'est le week-end, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Alors d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de venir me retrouver pour le Swiss Bliss. Je ne sais pas si ce sera demain ou dimanche, on verra, ce sera en fonction de la neige. Passez une très belle journée et à ce week-end. Allez, bye bye.